Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Lionel Gougelot.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du débat des grandes voix sur Europe 1. Je suis en compagnie, comme tous les samedis, de nos quatre signatures pour une heure de débat, de réflexion sur les grands thèmes de l'actualité qui vous ont passionné cette semaine. Michel Cotta, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Gérard Carrérou. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour, bonjour.
Alors, le sommaire de ce samedi, Emmanuel Macron qui déconfine les Français.
Volonté d'abord de rouvrir progressivement. Oui, il faut de la volonté pour le faire. Nous pourrions décider en quelque sorte de rester calfeutrés. Mais je pense à chacune et chacun d'entre vous, d'abord à nos enfants. Volonté d'ouvrir nos écoles et volonté continuer de manière proportionnée, précautionneuse, d'ouvrir tous les secteurs que nous pouvons jusqu'à cet été.
Extrait du message vidéo enregistré en marge de son interview à la presse quotidienne régionale cette semaine. Alors maintenant, les restaurateurs préparent leurs terrasses, on rappelle les gardiens de musée et les projectionnistes de cinéma, mais attention, il y aura toujours des freins d'urgence possibles.
On va déconfiner le pays, ça c'est clair. Et dans le même temps, nous allons avoir une pression pour la reprise de l'épidémie qui est quasi inévitable.
Certains médecins estiment que l'on va trop vite, comme le professeur Doré que l'on vient d'entendre. Alors le calendrier du retour des jours heureux vous semble-t-il pertinent, les grandes voix? Tout cela à un an de la présidentielle. On attend bien sûr vos avis. Lanceurs d'alerte ou séditieux, en publiant une tribune pour dénoncer le délitement qui frappe notre patrie, les officiers en retraite ont mis le feu aux poudres cette semaine.
On condamne sans réserve cette tribune d'un carton rond de généraux en charentaise.
Des généraux en charentaise, à l'IET fort, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie. Le gouvernement annonce des sanctions, mais les sondages révèlent que les Français sont plutôt en accord avec cette tribune. Et puis Joe Biden, le président qui veut donner un nouveau visage à l'Amérique.
America is on the move again.
100 jours de présidence à la Maison-Blanche, Biden vaccine à tour de bras et allonge les milliards de dollars pour relancer l'économie. Biden parviendra-t-il à réduire la fracture au sein de la population? Là encore, c'est une question que l'on posera. Voilà le programme, merci de nous accompagner. Il n'y a pas de jour férié pour les grandes voix. C'est parti. Emmanuel Macron dessine donc les grandes voies, les contours du nouveau déconfinement. On va enfin desserrer l'étreinte en plusieurs étapes. Alors on va les rappeler, lundi prochain, le 3 mai, le 19 mai, le 9 juin, avec la levée complète du couvre-feu le 30 juin. La première question que j'ai envie de vous poser, peut-être à vous Charles Villeneuve, est-ce que ce calendrier vous semble pertinent tout simplement?
Oui. Oui, même si nous entrons dans une période transitoire qui ne sera à coup sûr pas facile. Mais je crois qu'il était important de donner de l'espoir. Parce que trop de contraintes sur la vie sociale, parce que trop de pression sur le moral, parce que trop d'inquiétudes sur l'économie des services. Même si je voudrais bien que le président de la République m'explique pourquoi il ouvre les vannes alors qu'il les dessert, en tout cas, alors que l'objectif annoncé pour le faire, 5000 contaminations par jour, n'est pas encore atteint.
On va y revenir dans quelques instants. Mais il répond à une attente de la population.
Moi, je crois, oui. Parce qu'il y a une lassitude importante, parce qu'il sait très bien, de toute façon, il a commencé sa campagne présidentielle, il va faire un tour de France, on en parlera tout à l'heure, de toute façon, pour tâter le pouls des Français. Et ce pouls, eh ben, manifestement, il bat très fort sur le plan de la lassitude parce que la vie sociale, parce que les Français sont trop privés de cette vie sociale.
Gérard Carrérou.
Oui, vous savez, ça me rappelle le livre de Paul Morand, Ouvert, fermé. Moi, j'ai toujours été plutôt pour ouvrir que pour fermer. Or, les Français sont arrivés à un point où ils n'en pouvaient plus de se sentir non seulement fermés, mais enfermés dans un certain nombre de situations. Donc je crois qu'il fallait le faire. Et je pense qu'il a bien... La seule chose qui m'a surpris à tout dire, c'est qu'il avait fait donc ses confidences à la PQR, la presse quotidienne régionale. Et il y a une chose qui me paraissait extrêmement importante, qu'il n'a pas dit à la PQR, mais il a mis des heures après pour le dire, c'est « j'ouvre la vaccination à fond ».
Là aussi, on va en reparler.
Et là, c'était presque du frénétique, un peu à la Biden.
L'une des surprises, Catherine Ney, de cette intervention présidentielle, c'est que les mesures sont nationales et non pas territorialisées, comme on dit maintenant, comme on aurait pu l'envisager, justement, en fonction des situations sanitaires des différentes régions françaises.
Oui, mais je crois que le président se réserve après des corrections, s'il en est besoin. Je veux dire, pour l'instant, il ne pouvait pas énoncer des mesures pour dire pour tel département, telle date ou telle date. Ça va se faire au... C'est du travail de pépiniériste chinois, ça, travailler contre cette épidémie, parce qu'on n'en sait rien pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il avait besoin de donner des dates. Maintenant, on s'y accroche, on se dit, waouh, le 3, le 9, le 19, en fait, tout ça, toutes ces dates. Et Et d'ailleurs, au passage, les terrasses des cafés vont être ouvertes à partir du 19. Et je ne comprends pas la politique de la mairie de Paris qui veut faire payer les terrasses,
l'aménagement
des terrasses, aux restaurateurs qui ne gagnent rien depuis des mois. Ça, c'était un truc incompréhensible.
Ce qui me paraît en train de reculer, elle est en train
de
reculer.
Elle l'a dit, quoi, c'est ridicule.
Michel Cottin.
Oui, effectivement, il faut insister beaucoup sur la notion de ce qu'on appelle des freins. Effectivement, Emmanuel Macron envisage des freins à certaines conditions et dans certains endroits.
C'est le filet de sécurité, quoi.
Le filet de sécurité, mais je crois que la politique de fermeture était vraiment devenue insupportable. Mais il reste dans l'esprit des gens quand même qu'on est à un niveau élevé de contamination et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi.
Alors justement, c'est un peu le problème que posent ces annonces présidentielles, c'est qu'on va déconfiner à un niveau de contamination et de circulation du virus qui reste très élevé, même si on observe un certain recul et notamment une baisse des réanimations en réanimation dans les hôpitaux français. Donc il y a des scientifiques, des médecins qui s'inquiètent de ce rythme. Alors peut-être pas tous, écoutez Antoine Flahaut qui était ce matin l'invité de Pierre de Villeneuve.
Il est normal de vouloir déconfiner à partir du moment où on a confiné et que les courbes s'améliorent. Oui. Aujourd'hui, en France, les courbes s'améliorent. Le taux de reproduction est au-dessous de 1. Il y a une reprise progressive du contrôle sur cette épidémie. Il faut qu'elle soit suffisamment prolongée pour qu'on se débarrasse de la circulation de ce virus. Il faut qu'on retourne à une situation qui ressemble à celle du mois de juin de l'année dernière, disons, à moins de 1000 cas par jour. La France sera très tranquille. Si elle arrive à cela, c'est très bien.
Pour certains médecins, Catherine Ney, Emmanuel Macron prend quand même un risque.
Ah ben oui, la quatrième vague, beaucoup l'ont en l'esprit et la craignent, ça c'est vrai. Mais aussi, ça va dépendre de beaucoup de choses, et notamment du comportement des Français, qui, une fois qu'on va relâcher les choses, auront peut-être, avec les gestes barrières, beaucoup plus de liberté qu'il ne le faut. Il y a un sondage au Doxa qui est sorti hier, qui est intéressant, qui dit que déjà 50% des Français avouent ne pas respecter strictement les gestes barrières.
Alors,
parce que ça, ils en ont marre d'avoir un masque, de passer, voilà, ils oublient. Bon. Et puis, il y a une autre chose qui montre que ça va être difficile après de revenir dans la vie normale, parce que 55% veulent remettre en cause de manière durable certains choix importants de leur vie. 7 sur 10 voudront disposer plus librement de leur temps, c'est-à-dire travailler moins. Donc, alors que si l'économie reprend et qu'il faudrait travailler plus, on voit déjà des restaurateurs qui ont du mal à réengager des gens pour travailler dès l'ouverture. Donc, ça va être ça aussi un problème énorme.
Michel Cottin.
Le deuxième aspect, c'est évidemment le rythme de la vaccination. Alors, apparemment, ça progresse et au fond...
On élargit le public, hein, ce moment.
Oui, on élargit le public, mais au fond, pourquoi on l'élargit après avoir dit le contraire? À mon avis, c'est parce que, effectivement, des doses restées, et ces doses qui restaient en grand nombre, ont amené à ouvrir davantage en disant « moi, il n'y aura pas 200 000 piqûres à faire » en courant derrière les gens, leur disant « venez tout de suite ». Donc je crois que ça explique quand même l'ouverture de la vaccination. Et si on arrive effectivement aux 30 millions en juin, tout sera plus facile que si on n'y arrive pas. Et on n'est toujours pas sûr d'y arriver.
Gérard Carrère, oui, c'en est fini des critiques sur cette campagne de vaccination
Non, la critique, je partage le fait qu'il ouvre. Il faut ouvrir la vaccination maintenant. Maintenant, il faut faire comme le maire de Cannes. Il faut faire en France comme le maire de Cannes a fait à Cannes. C'est-à-dire,
et celui de Nice, excuse-moi.
Oui, et d'autres aussi. Si on a des vaccins, il faut vacciner. Ouais. Voilà, bon, clair. Mais ce que je veux quand même rester, c'est Michel, ce qu'il sait, c'est les chiffres sont quand même, il faut quand même faut être sérieux, hein. On peut partager, je viens de dire oui, je suis d'accord avec cette politique, en même temps, 400, le taux d'incidence, c'est considérable.
C'est très élevé.
Il est à 100 en Allemagne, il est à 150 dans d'autres, entre 120 et 150 dans d'autres
pays.
D'où
le risque évoqué par les scientifiques.
Donc le risque est grand. Et il y a deuxième chiffre qui fait quand même un peu peur. On dit qu'il faut s'habituer à vivre. D'accord, on s'habitue. 300-350 morts par jour. Le professeur Flahaut, que vous avez cité, rappelait qu'en France, le grand risque, c'était l'infarctus. Et l'infarctus, c'est 90 morts par mois. Et là, on est à 300-350.
Cette réalité sanitaire et médicale est toujours là, effectivement. On va marquer une première pause, les grandes voix, si vous le voulez bien. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler de l'agenda politique d'Emmanuel Macron à un an de la présidentielle. Parviendra-t-il à faire coïncider le retour des jours heureux et sa campagne pour un nouveau mandat? Question.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h. Lionel Gougelot.
Avec Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrero et Charles Villeneuve, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle. Et je vous propose, les grandes voix, d'écouter un autre extrait du message vidéo enregistré par Emmanuel Macron en complément de l'interview accordée vendredi à la presse quotidienne régionale.
Dans ces grands moments d'épidémie, de doute, les forces de la division sont toujours là qui reviennent. Elles ont parfois des voix mélodieuses. Elles semblent proposer des solutions plus rapides. Les solutions qui fonctionnent, c'est celles qu'on construit ensemble, méthodiquement, grâce au savoir de nos meilleurs experts, grâce à la concertation du terrain, des citoyens, des maires, des élus, des forces vives de la nation, et grâce à ce ciment qui nous fait nation, cette unité. Résistance, détermination, unité.
Les choses sont claires, je pense, hein, les grandes voix. L'objectif du président de la République, c'est de tirer profit de la sortie de crise après l'été pour relancer une campagne pour un second mandat.
Oui, tout à fait.
Michel Cotta.
Son espoir est d'apparaître, malgré tout, comme le vainqueur de la pandémie. Mais c'est ce qui rend son pari d'autant plus important. C'est qu'effectivement, il peut tout gagner, mais il peut aussi perdre. Et en plus, il a un deuxième objectif qu'on voit bien, et qui est déjà l'objectif de la campagne électorale, c'est pas profiter de l'épidémie, je veux dire, mais
rebondir
et rebondir dans sa reconnaissance de la France, des territoires. Il a dit qu'il allait commencer un vaste tour, etc. Au fond, lui, il joue comme s'il considérait que l'affaire était gagnée. Et toute notre interrogation, c'est que après tout, nous ne sommes pas sûrs que ce soit gagné.
Oui, moi je trouve que d'ailleurs, il dit que dès le début du mois de juin, grâce au retour à la vie aussi normale que possible, il reprend son bâton de pèlerin pour aller sur le territoire, voir les gens, les élus. Donc, ça va être suivi, c'est déjà, il est en campagne. En campagne à partir du mois de juin. Donc, chaque fois qu'il interviendra, d'abord on verra comment il sera reçu sur le terrain. Et si à chaque fois, il y a des sifflets, s'il sent qu'il y a des manifestations contre lui, même si je pense que les forces de l'ordre feront tout pour qu'il ne les voit pas. Eh bien, c'est quand même quelque chose qui peut irriter sur le terrain, cette visite. Et moi, je trouve aussi que cette visite continue, c'est aussi risqué pour lui. Vous voyez, dans un moment où tout le monde, c'est inflammable, le terrain politique.
Charles Villeneuve, imaginons un nouveau confinement. Ça sonnerait la fin de ses chances de réélection.
Je pense qu'il prend un énorme risque politique. En économie, on appelle ça, et qu'on peut dupliquer pour cette crise sanitaire, c'est le stop and go.
Oui,
c'est bon, c'est-à-dire qu'on met l'accélérateur quand, évidemment, la circulation du virus n'est pas très bonne, bon, et on freine. À ce moment-là, on ouvre un peu plus. Mais si cette circulation est pour l'instant qui est importante, y compris dans le cadre de l'encombrement des hôpitaux, qui reste, elle aussi, importante, il ne peut que mettre le frein. D'où, si vous voulez, l'avertissement permanent de toute la classe des scientifiques et des médecins. Ce que vous avez passé tout à l'heure avec le professeur Flao, c'est très très vrai. Quand vous vous renseignez au niveau des hôpitaux dans les régions dont vous êtes originaire, où vous habitez, vous voyez très bien que l'encombrement ne diminue quasiment pas. Et à ce moment-là, si vous voulez, il sera obligé de freiner et de ne pas accélérer. Et c'est un risque politique. Et je rejoins Catherine quand elle dit qu'on verra le test, et ça, ce n'est pas un test sanitaire, c'est un test politique, c'est-à-dire comment il sera reçu, parce qu'il reprend sa tournée, parce que ça a payé dans le cadre des Gilets jaunes, quand il est allé faire tous les débats dans toutes les, les communes.
D'ailleurs, ce n'était pas un débat, c'était un one-man show, parce qu'il parlait pendant 6 heures. Là, il ne peut pas recommencer ça.
Gérard Carrero.
Oui, je crois qu'il faut gagner, bien sûr, et toute la France, tous les Français l'espèrent, il faut gagner la guerre contre la Covid. Mais ce n'est pas parce qu'on gagnera, et j'espère qu'on la gagnera, ce n'est pas parce qu'on aura gagné la guerre contre la Covid qu'on aura gagné l'élection. Je veux dire par là...
Quand même, ça sera...
Non. Vous savez... ce qui est acquis en politique. Churchill avait gagné la guerre et il a été battu aux élections. Je veux dire par là que ce n'est pas les gens n'auront qu'un souci, si on vainc le Covid, la Covid, c'est de vivre, de retrouver leur vie d'avant. Mmh. Et il y a eu effectivement, dans la bataille, il y aura eu des erreurs, il y aura eu des choses positives. Et oui, c'est pas là-dessus que se fera... Donc ce que je veux dire, c'est qu'il a raison d'en sortir, il a raison d'en sortir au plus vite, parce que c'est pas là-dessus qu'il gagnera la bataille. Il y a d'autres champs de bataille, je pense à la sécurité notamment, qui seront beaucoup plus difficiles.
Charles Villeneuve et ensuite Michel Cotta.
Non mais je suis sur la même longueur d'onde que Gérard Carrérou. Un mauvais souvenir reste un mauvais souvenir. Et un mauvais souvenir, c'est un risque politique, c'est un mauvais point politique. Il a fait allusion à Churchill en 39-45, qui est l'un des quatre grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Mais rappelez-vous, le père de la victoire, 14-18, c'est-à-dire Clémenceau, qui est battu au lendemain de la guerre, alors qu'il est l'un des acteurs principaux. Il allait dans les tranchées pour remonter le moral, etc. Mais ça reste une souffrance pour les Français. Et à partir de là, ils sanctionnent le gestionnaire de cette souffrance.
Mais oui, c'est comme Churchill, il avait promis du sang et des larmes, il a été exaucé, les Français l'ont eu, et après, les Anglais l'ont eu, après, ils ne le supportaient plus.
J'ai une petite question pour vous, les grandes voix, peut-être vous, Michel Cotta, pour tourner la page de la crise, si toutefois c'est possible à l'automne prochain, et aborder la dernière ligne droite du quinquennat. Est-ce qu'il va falloir changer de Premier ministre ?
Oui, on se pose la question. C'est justement, effectivement, il laisse son Premier ministre assumer beaucoup de choses dans cette épidémie, tout en se gardant à lui les bonnes nouvelles, celles de l'ouverture. Mais moi, je crois que ce qui est très important aussi, c'est est-ce qu'on reprendra franchement notre vie d'avant ? Le travail va beaucoup changer. Et est-ce que le président de la République pourra parler de réformes en 2021-2022, comme il en a parlé en 2017. Il me semble quand même qu'il ne peut pas reprendre les mêmes arguments et qu'il sera obligé de trouver quelque chose d'autre pour dire, ben voilà, jusqu'à présent, j'ai pas pu faire des réformes parce que les circonstances, mais j'en ferai.
C'est un excellent teasing, pardonnez-moi.
Changer Premier ministre ne servirait à rien.
On va en reparler, c'est un excellent teasing.
Et celui-là est bien pratique pour lui.
Michel Cotta pour une autre partie de notre émission. On va marquer une deuxième pause publicitaire et on se retrouve dans quelques instants.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h, Lionel Gougelot.
10h29 sur Europe 1, nous sommes en compagnie des grandes voix jusqu'à 11h. Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Alors on le disait, hein, Emmanuel Macron annonce qu'il va repartir, j'allais dire en campagne, non, allez, reprendre le pouls du pays dans les prochaines semaines. Il dit aussi dans cette fameuse interview accordée à la presse quotidienne régionale qu'il va réformer jusqu'au dernier quart d'heure. C'est ce que vous évoquiez à l'instant, Michel Cotta. Vous y croyez, vous, Charles Villeneuve
Non, moi je trouve que s'il songe à relancer tous les projets de l'avant-crise, toutes les réformes d'inspiration libérale, la réforme des retraites, la réduction du nombre des fonctionnaires, la réduction des dépenses publiques, allez les remettre dans l'esprit des Français. Donc il va essayer de ne pas faire de dégâts sur ce plan-là, sauf sur les questions dites régaliennes liées à l'identité nationale et sur la sécurité où il est sur la défensive, car il est sur la défensive en ce qui concerne l'autorité.
Michel Cotta, la réforme des retraites, de l'assurance chômage, tout ça, ça va être balayé ou il y a des chances pour que ça revienne sur le tapis ?
La réforme des retraites, peut-être que ce sera plus tard. Quoi. C'est vrai que c'est difficile de reprendre une campagne électorale, là maintenant, et il la reprend, il la reprendra en septembre, donc c'est difficile. En revanche, on voit bien que dès que la page de la pandémie se tournera,
Si elle est tournée.
Alors se poseront les questions de sécurité qui se posent déjà, et sacrément, même en temps de pandémie. Mais on voit bien que son boulot sera plutôt là-dessus que sur la réforme sociétale ou sur les réformes économiques.
Ça veut dire une campagne à droite, Catherine Ney ?
Oh, je ne sais pas si ça veut dire une campagne à droite. Ça veut dire qu'il va aller jusqu'au bout en travaillant. Ça veut dire qu'il va se représenter. Contrairement, il annonce qu'il ne fera pas comme François Hollande. Alors vous pourrez me dire, ça peut, évidemment, comme il est en même temps, ça peut dire j'y travaillerai jusqu'au bout et je la serai prise après si ça ne va pas. Vous voyez, je continuerai comme... Voilà. Mais moi, je pense qu'il nous annonce qu'il va se représenter, son Tour de France, il le fait pour ça. Et je veux dire, il est déjà en campagne et il peut regarder le paysage autour de lui. Il n'a pas vraiment... Il y a Marine Le Pen et puis les autres, il n'y a pas d'adversaire crédible pour l'instant qui peut vraiment le gêner pour l'instant.
Gérard Carrérou.
Oui, il n'y a aucun doute pour moi qu'il est en campagne, donc qu'il se représente, évidemment. Oui. Il y a des gens qui ont dit « Ah, oui, peut-être qu'il ne se représentera pas ». C'est idiot de penser ça, je crois.
Ah, ça dépendra de Brigitte, oui.
Moi, je ne crois pas que ça dépendra de Brigitte. Ou ça dépendra de lui, et lui a déjà décidé pour lui-même qu'il se représenterait. Oui. Il est déjà en campagne. Sa campagne, elle est claire, effectivement. Il ne fera pas la campagne avec du réchauffé, c'est-à-dire en nous ressortant le projet sur les retraites ou je ne sais quoi. Il sait très bien que ça ne marcherait pas.
Ah. Donc, pour le second quinquennat, oui, Richard Ferrand a toujours dit c'est un projet de deuxième quinquennat.
Pour le second quinquennat, mais je veux dire pour la campagne. On parle de la campagne. Je pense qu'il va faire une campagne qui va être... D'abord, il y aura deux volets. Il y aura un volet anti-Marine Le Pen, mais il a déjà commencé. On a bien vu le déploiement, on en parlera tout à l'heure, mais on a déjà vu le déploiement ministériel quand il s'agissait d'attaquer Marine Le Pen sur un point particulier. Donc ça va être la consigne. Tout le monde y va, et Dupond-Moretti sera un des lieutenants dans cette campagne. Mmh. Et deuxièmement, il va essayer de conquérir, il va aller chez les jeunes. C'est l'électorat des jeunes, jeunes, hein, c'est-à-dire moins de 30 ans, et l'électorat qui finalement ne lui est pas si défavorable que ça. Je pense qu'il va donner cette image à travers la jeunesse.
Ça veut dire quoi, des messages sur TikTok,
non,
etc.
Mais ça veut dire qu'il va donner un espoir à une jeunesse en disant « Vous avez été malheureux, vous avez été pendant 2 ans, là, vous les jeunes, vous avez été brimés, vous avez été casés Zerné chez vous, vous avez...
Il a etc. du boulot, hein.
Il a du boulot.
Non, mais il a du boulot, oui. Gérard, parce qu'il y a deux catégories de jeunes. Il y a les tout jeunes, qui sont sur TikTok, etc., ou sur Brut, mais il y a les autres jeunes qui travaillent et qui, pour l'instant, sont en majorité à 43% sur le front, exactement, le Rassemblement National.
Exactement. Oui, mais il faut qu'il aille sur les terrains où il a encore des possibilités. Les jeunes en est un, et il va l'exploiter, et je pense que les vieux en est un autre. Les vieux, c'est, il pourra toujours leur dire, grâce à moi, nous en sommes sortis. Et cet électorat des vieux, c'est-à-dire, quand je dis des vieux, excusez-moi,
des seniors.
Comme j'en suis, je me permets de les
dire. Mais tu es un senior.
Mais disons les gens du troisième âge, pour faire des litotes, les troisième âge ou les seniors, ces gens-là, c'est quand même une réserve de 15 ou 17 millions d'électeurs.
Et qui votent.
Et c'est des gens qui votent, et qui votent. Pour qui Marine Le Pen reste quand même quelque chose qui fait un peu tilt dans la tête.
En tout cas, son objectif, Charles Villeneuve, c'est d'aller vite, d'asphyxier les concurrents, de faire en sorte que personne ne puisse
Attendez, on est à un an de l'élection présidentielle. Là, sa tournée, il va prendre des points d'ancrage, il va tester au sens politique du terme, pas au sens sanitaire, bien sûr, hein, parce que là aussi, ce n'est pas une très grande réussite sur le test, les masques et tout. Enfin, je ne reviens pas là-dessus, mais enfin, n'oublions pas le souvenir des Français et des électeurs sur ce plan-là. Et asphyxier les concurrents, mais lesquels? Il ne peut pas les asphyxier. On a quand même d'abord les élections régionales, les élections départementales. Or, de toute façon, c'est la perte, plutôt que les asphyxier, c'est de voir si Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, etc., vont être étouffés par leur échec. Ça, oui, les asphyxier, d'accord. Mais si elles réussissent, si, par exemple, la majorité, ou alors les Républicains qui vont s'allier avec la majorité, éventuellement sur la Côte d'Azur, perdent ces élections au profit du Rassemblement National. Si Xavier Bertrand réussit dans les Hauts-de-France, etc., vous savez, ça va s'annoncer. D'ailleurs, Bruno Le Maire le disait quand il est venu cette semaine off, si vous voulez, quand il a pris un café avec un certain nombre d'entre nous. Il dit, de toute façon, c'est deux affiches où il faudra faire très attention. C'est à partir de là qu'on verra s'il pourra asphyxier les concurrents ou pas.
Michel Cotta et ensuite Catherine Ney, rapidement, s'il vous plaît.
Effectivement, personne ne parle des élections régionales en ce moment, mais les élections régionales ont plus d'importance qu'on croit sur la suite des choses. Au moins pour deux points. Un, on parlait de la région PACA, où effectivement le président, qui est Renaud Muselier, est persuadé que s'il n'ouvre pas dès le début, dès avant le premier tour, à la majorité présidentielle, il risque de perdre à la deuxième. Ça, c'est quand même important, parce que ça veut dire que c'est une ouverture à la majorité présidentielle. Et ça met les actuels patrons des Républicains dans un dilemme difficile. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'allier pour les régionales à Macron et en même temps le combattre un an plus tard? Donc, les régionales, et aussi les régionales, montreront ceux qui, à droite, ont le plus de chances de s'imposer, que ce soit naturellement Bertrand, que ce soit Valérie Pécresse, ou in fine évoqué.
Il faudra pour ces candidats-là une victoire régionale et des bons sondages à l'automne prochain. Il faudra une combinaison des deux, pardon. On va marquer une nouvelle pause, si vous le voulez bien, les grandes voix, et on va parler de cette fameuse polémique de la tribune des généraux. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Lionel Gougelot.
Retour dans le débat des grandes voix, nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1. Alors cette fameuse tribune des anciens militaires qui dénoncent le délitement de la patrie, les forces qui haïssent la France, l'islamisme et les territoires perdus de la République. Un texte qui a été publié d'abord sur un blog, puis ensuite repris sur le site internet de Valeurs Actuelles, dans lequel ces officiers en retraite évoquent notamment le risque d'une intervention de leurs camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. Je cite textuellement ce texte. Et en fait, c'est cette phrase qui a fait réagir le gouvernement, notamment Florence Parly, la ministre des Armées.
C'est une faute politique que de vouloir appeler des militaires à rejoindre un parti politique. Les armées sont au service de la nation. L'armée, c'est la République. Les militaires ne sont pas des militants politiques.
Gérard Carrérou, ces militaires, ce sont des lanceurs d'alerte ou des séditieux ?
Écoutez, pour moi, il n'y a pas de doute. Je partage d'ailleurs l'opinion de 58% des Français qui l'ont dit dans un sondage de LCI. Je pense que ces militaires-là se sont comportés... On vit dans un monde où il y a des lanceurs d'alerte. Quand ils sont de gauche, on dit c'est formidable, il y a eu des types qui ont dénoncé des lanceurs d'alerte, on en fait des dossiers dans Le Monde. Le Monde, je parle du journal. Là, ils ont sonné le tocsin et ils ont mis en garde contre le délitement de notre société et sur un certain nombre de menaces qui planent. Mais ces menaces, elles avaient été évoquées par Gérard Collomb quand il a quitté son poste au ministère de l'Intérieur. Elles ont été évoquées par beaucoup de gens. Je pense que le constat est une chose, moi je partage le constat. Après, il y a l'interprétation. Est-ce que ces gens sont des factieux ? Je ne le crois pas. Je pense que ce ne sont pas des séditieux. Je pense que ceux qui les ont dénoncés sont des gens qui ont un fantasme de gauche dans la tête. Un fantasme, je veux dire par là, c'est ils rêvent du général Boulanger, ils rêvent de Franco, ils rêvent de Pinochet. Ils vivent une autre époque. La France a une armée républicaine depuis très longtemps maintenant. Même à l'époque de Boulanger, elle n'a pas fait un putsch. Il y avait le général Boulanger, mais l'armée n'a pas basculé. Je veux dire par là, la France a une armée de la République, et je pense que c'est toujours le cas.
Mais cette phrase, l'intervention des camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles, est-ce qu'elle n'est pas un peu maladroite quand même ?
Je trouve ça...
Michel Cotta.
Ouais, pardon, je pense tout à fait que l'armée est républicaine en France. Je pense aussi que l'analyse que fait ce texte de l'antiracisme à rebours, de la lutte contre l'islamisme et les hordes de banlieue, évidemment, nous partageons tous tout ça.
Pardon, mais
et
c'est
après
presque
tout,
une banalité.
La sécurité n'est pas forcément un thème de droite. Il ne faut pas croire que la gauche veut l'insécurité la droite...
Bon, mais cette phrase-là,
Michel,
moi,
dis-le fortement.
Voilà, cette phrase me gêne.
Cette phrase vous gêne,
moi,
Michel
cette
Cotin.
Phrase me gêne. D'accord. Et d'ailleurs, elle gêne aussi les représentants de l'armée républicaine, le vrai représentant de l'armée républicaine, qui est le Cointre, qui est le chef d'état-major, et qui, lui, réagit dans le Parisien.
Oui,
ah ben
bah,
oui, d'accord, non, mais c'est lui qui incarne l'armée.
Oui,
c'est quand
même
pas l'équipe qui écrit.
Surtout quand on lit bien ce qu'ont dit les généraux, ils disent que l'état de délitement est tel qu'il peut y avoir un jour des problèmes dans la société qui mène à une guerre civile, et dans ce cas-là, l'armée interviendrait si les politiques ne font rien.
Alors voilà.
Donc, ce n'est pas du tout un putsch. C'est un avis, c'est une adresse aux politiques. Si vous ne réagissez pas, il est peut-être trop tard. Ça peut arriver. C'est ça qu'ils ont dit.
Menacer d'une guerre civile, c'est gros.
Ben, c'est gros.
Ils menacent d'une guerre civile.
Mais je vais vous dire.
Ça, c'est le fantasme.
Un mot, Catherine.
Ben, un mot. Si Marine Le Pen n'avait pas dit tout de suite que ces généraux viennent avec moi... Peut-être. D'ailleurs, Le Cointre l'a dit. Je trouvais que c'était pas important. La même chose pour Castex. Et c'est elle qui a craqué l'allumette. Et c'est elle qui a craqué l'allumette au grand plaisir de la Macronie, parce qu'elle a trouvé enfin le moyen de s'attaquer à elle. Vous voyez ?
Ça, c'est dit.
Bon, d'abord, je rappelle qu'il y a une étude très importante qu'a réalisée l'IFOP pour Havas. Et de toutes les institutions, on est très loin de Dreyfus, de Boulanger et de MacMahon. La première des institutions qui emporte une majorité écrasante de suffrages des Français, c'est l'armée. Avant, les hôpitaux et l'école. Bon, ce sont les trois institutions qui sont classées en tête. Moi, je pense fondamentalement que cette phrase autour de laquelle on débat dessert l'armée. Elle dessert le chef d'état-major des armées qui passe pour le petit télégraphiste de la ministre de la Défense. Et c'est injuste par rapport à Lecointre, qui a non seulement payé pas de sa vie, mais qui a démontré de toute façon son esprit combattant. Il est monté à l'assaut, à la baïonnette, sur un pont dans les Balkans, sur ordre d'ailleurs du président de la République, Jacques Chirac. C'est injuste pour ce qu'il est et ce qu'il a été, un soldat qui a joué sa peau. Mais ça dessert aussi le président de la République, il est atteint en tant que chef des armées. Et puis n'oublions pas qu'il a commencé son quinquennat par limoger le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers.
Première fracture,
et qui, de toute façon, ne se battait que sur le plan du budget de l'armée. Évidemment, ça a contrarié le chef de l'État. Alors, bien sûr, il y aura des sanctions. Elles sont d'ailleurs, inéluctables, mais elles seront difficiles à prendre par rapport à un certain nombre de généraux qui, de toute façon, ont plus de 67 ans, la plupart de ceux qui ont signé, et qui sont déjà largement à la retraite, parce qu'ils sont placés en deuxième section. Et vous savez que la deuxième section, c'est en fait, si vous voulez, une sorte de leurre qu'on entretient, c'est-à-dire qu'ils peuvent, si la France est à feu et à sang, être rappelés en service actif.
La seule question politique que je me pose, j'ai dit mon adhésion au constat et au fait que l'armée est une armée républicaine. Mais la seule question politique que je me pose et que je pose à mes camarades, est-ce que Marine Le Pen aurait mieux fait de se taire ? Personnellement, je pense qu'elle aurait mieux fait de se taire.
Oui, c'est sûr.
Je pense qu'elle n'avait pas besoin de dire qu'elle soutenait ou qu'elle leur demandait de venir la soutenir. Je pense qu'elle a fait une erreur politique. Oui. Alors, pourquoi l'a-t-elle fait ? Je me suis posé la question. Parce qu'elle est quand même, c'est maintenant une politique de haut niveau. Pourquoi a-t-elle fait une erreur ? Je pense qu'on a dû lui dire « Attention Marine ». L'autre jour, face à Darmanin, il t'a même traité de mollassonne. Tu es trop molle. Attention, avant le deuxième tour, il y a un premier tour.
Elle a donc sauté sur l'occasion.
Donc, je pense qu'elle a pris l'avion pour le premier tour avant le deuxième.
Mais d'ailleurs, pourquoi à l'arrivée, ça sert quand même Marine Le Pen ? Parce que les Français vont observer quoi ? Que les rodéos de Lyon resteront impunis. Que les attaques contre les forces de sécurité intérieure sont quotidiennes. Et que l'État s'apprête à sanctionner des militaires qui disent ce qu'ils pensent sans faire de putsch. C'est pour ça que ça va servir quand même Marine Le Pen.
Michel Cotta.
Moi, je voulais dire deux choses. D'abord, ce texte, ce n'est pas le texte de toute l'armée. Hein.
Oui,
c'est pas le texte de toute l'armée, c'est vraiment encore qu'il soit signé et qu'il continue à être signé par des gens.
Enfin, de soutien,
celui qui représente l'armée, pardon, c'est Lecointre, c'est
oui,
pas.
Mais enfin, il pas deuxièmement, dans les casernes, de toute façon, ça emporte la majorité des militaires.
On est d'accord.
Mais
pas seulement dans les casernes.
Faut pas se cacher derrière.
Non, mais on est d'accord avec toi. Pas seulement dans les casernes.
Un grand soldat, mais c'est pas derrière Lecointre, on peut pas mettre toute l'armée.
Laissez finir, Michel, s'il vous plaît.
Pardon, mais sur les arguments. Il n'y a pas que l'armée qui est pour. C'est-à-dire, nous sommes tous pour, effectivement, que les banlieues ne soient pas saccagées comme elles le sont.
Mais ces généraux disent ce que l'ancien ministre de l'Intérieur a dit. Gérard Collomb, qui n'est pas un homme de droite.
Mais on est d'accord là-dessus. Je parle simplement d'une phrase.
De la formulation.
De la formulation.
Oui, on est d'accord là-dessus. Bon. Tous les deux, nous sommes d'accord.
Et deuxièmement, je voulais dire que...
Rapidement, Michel,
puisqu'on on a parlé de Marine Le Pen, maintenant Mélenchon aussi a déclenché une crise. Et pour une autre raison, parce que lui, il veut montrer, au contraire, que Macron est très à droite, et qu'il va ouvrir une politique sécuritaire. Donc c'est deux personnes qui ont fait...
de la politique pour la présidentielle.
Catherine et Mélenchon,
aux deux extrêmes.
Oui, parce que quand
c'était l'objet de votre édito ce matin.
Ce que disait Charles sur le général Lecointre. Là, il a réagi, il veut sanctionner, et il a dit des choses très désagréables pour le général Piquemal, qui avait déjà été arrêté en 2016 et dégradé, parce qu'il avait participé à une manifestation à Calais contre les migrants, ce qui est chez lui une obsession.
Non, il n'a pas été dégradé, il a été rayé des cadres.
Rayé des cadres, et il a été privé de sa carte d'identité militaire, ce qui l'a beaucoup fait souffrir.
Le général Lecointre lui dit
qu'il est indigne, qu'il salit l'armée, qu'il la fragilise. Et là, il vient de lui répondre une lettre, Piquemal répond au général Lecointre pour le dire « Par votre discipline intellectuelle servile et sans faille, votre carriérisme consternant, votre soumission lamentable au pouvoir politique, vous êtes prêt par complaisance et bassesse à couper la tête à tous vos pères et anciens, c'est lamentable. » Donc c'est vous dire que Piquemal, alors je ne sais pas quel poids il a dans la carrière militaire et auprès de ses pères, Mais là, c'est une lettre qui est incroyable de renvoyer ça au chef d'état-major de l'Élysée.
Ça, c'est une lettre.
Non, mais souvenons-nous quand même du général sédition. De Gaulle. Vous me faites.
Non, mais c'est non, pas l'appel du 18 juin.
Mais
quand même.
Mais c'est pas l'appel du 18 juin.
Mais oui.
Mais je veux dire par là que l'armée. Un militaire, fût-il à la retraite, est un citoyen.
Oui.
Et dans notre démocratie, dont on parle sans arrêt avec un D majuscule, et l'état de droit, etc.,
il a
parfaitement le droit d'exprimer ce qui a été exprimé par des milliers de soldats ou d'anciens
entre
soldats.
Entre nous, pas de cette façon-là.
Non, mais c'est la récupération de Marine Le Pen qui déclenche la cavalcade névrotique des chevaux légers du gouvernement qui n'ont pas cessé de toute façon de taper et de rappeler le putsch d'Alger, qui ça n'a rien à voir avec le putsch d'Alger du 21 avril 1961, alors que cette motion en quelque sorte de protestation, cette pétition a été publiée le
bien
13
avant,
avril.
Évidemment. Oui. On va marquer une dernière pause si vous le voulez bien, les grandes voix, et on va parler quand même de Joe Biden, le président qui veut reconstruire l'Amérique.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Lionel Gougelot.
Et c'est déjà la dernière partie du débat des grandes voix. Devant un congrès sous protocole sanitaire, Joe Biden a tiré le bilan de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche avec, on va dire, un discours de reconstruction de l'Amérique. C'est à vous, Gérard Carreau, que je vais poser la question. Est-ce qu'il vous étonne finalement, Joe Biden ?
Oui, parce que. Trump avait fait de lui l'image du Sleepy Joe, l'endormi,
loin,
et c'est Battling Joe que nous avons depuis 100 jours.
Alors, son
cocktail, je le résume en trois mots, apaiser, vacciner, reconstruire. Apaiser, le pays a besoin de retour au calme, ça c'est clair, il était, comme on dit, tourneboulé, excité, prêt, alors peut-être pas à la guerre civile, mais prêt à des violences, donc il apaise. Deuxièmement, il vaccine à tour de bras. Faut reprendre la logistique.
200 millions.
Oui, oui.
Alors qu'il avait dit 100 millions.
Oui, il a battu tous ses propres records. Il y a toute. Alors derrière, il y a la logistique à la Patton, à la Marshall, à la toute. Ce qui fait la force de l'Amérique. Et puis troisièmement, reconstruire. Et reconstruire comment ? C'est là que je mettrai une petite nuance que souvent la presse de gauche ne voit pas. C'est que il fait quelque part un peu ce qu'avait fait Trump. Trump a été élu parce que la classe moyenne américaine avait le sentiment d'être en dépossession d'elle-même. Et il a été élu pour ça. Et Biden est en train de continuer. Quand il dit, par exemple, une phrase de Biden, quand il dit, dites donc, les pales de nos...
De nos éoliennes,
elles pourraient être construites à Pittsburgh plutôt qu'à Pékin, eh bien, c'est exactement la politique de Trump. Alors, bien sûr...
C'est mieux que de réouvrir les centrales à charbon.
C'est une politique, évidemment, qui est très sociale, qui va entraîner effectivement des hausses d'impôts. Mais attention, les hausses d'impôts, j'ai bien regardé les chiffres, paieront un peu plus d'impôts comme sous Obama, ceux qui gagnent à peu près 450 000 euros par an, c'est-à-dire à peu près, donc faites le calcul, plus de 30 000 euros par mois. Quoi.
Catherine Ney, j'évoquais tout à l'heure le terme d'état de grâce, c'est peut-être un peu excessif, parce que finalement c'est 52% de satisfaction dans l'électorat, la population américaine.
C'est que largement... n'a jamais eu Trump. Hein
non, voilà. Certes, bon, enfin c'est largement au-dessus de en dessous d'Obama, même de Bush.
Oui, mais c'est tellement extraordinaire. Écoutez, pendant la campagne des primaires et quand on voyait les débats, moi je trouvais vraiment qu'il aurait mérité ce que... Le Sleepy Joe, je le trouvais très gaffeur, et il avait d'ailleurs cette réputation, et j'imaginais pas du tout qu'arrivé au pouvoir, tout d'un coup, il n'hésite plus, il dit des choses fortes, alors c'est sans doute préparé à l'avance, mais moi je trouve que même en politique étrangère, Gérard vient de parler tout ça, oser dire comme ça, ben oui, que Poutine est un tueur, et du coup, Poutine l'invite à débattre, hein, poignet vilain, il vous oindra, mais Poutine ne veut pas rompre avec lui, il dit ses vérités, moi je trouve qu'il aux Chinois, et moi, je trouve qu'il est très audacieux et il le fait avec une courtoisie. Et on sent, vous voyez, quoi ? L'expérience de 40 ans de vie politique derrière lui. Et c'est là qu'on se rend compte que ça sert à quelque chose, l'expérience politique.
Le vieil animal politique, vous séduit-il,
Michel Cotta ? Absolument. Et, il faut rappeler quand même qu'il doit aussi séduire les Républicains pour faire passer ses lois. Hein,
Au-delà des annonces, il va falloir mettre en œuvre les réformes.
Ce qui m'amuse beaucoup, c'est une espèce de paradoxe qui fait que c'est maintenant, en France et en Europe, qu'on dit... Ouh là là, on ne va pas taxer les Juifs, hein. On ne va pas casser les riches. On va faire attention, on va parvenir aux impôts sur la fortune. Donc au fond, on a l'impression qu'il prend les devants et qu'il prend même à contre-pied.
C'est parce que les taux d'imposition ne sont pas les mêmes.
Une partie de l'Europe. Ouais. Et ça, quand même, c'était inattendu au moment où on se disait, ben, rappelez-vous, il n'y a pas tellement longtemps, qu'on se disait, il peut y avoir une guerre civile, ils ont envahi le Capitole. Mmh. Moi, je trouve que les rétablissements comme ça de l'Amérique vis-à-vis du monde a été formidablement réussi par Joe Biden.
Charles Villeneuve, peut-il réduire la fracture entre, les rednecks et les Black Lives Matter ?
Sincèrement, moi, je laisse à Gérard Carrérou, qui est un fin connaisseur, ce choix. Moi, je me pose une seule question, parce que là, on fait les pompes de Biden. Je me pose une seule question.
Les pompes, il nous séduit comme ça, quoi. Voilà, on trouve qu'on est étonné d'être séduit.
Moi, je me pose une seule question.
Il n'a encore pas fait les pompes du Congrès.
Est-ce que le nouveau président des États-Unis, a parlé de lever les sanctions extraterritoriales ? Pas du tout, jusqu'à présent. Contre l'Iran, contre la Russie, contre la Chine, l'ennemi juré. Il faut savoir que depuis que, de toute façon, ils nous ont sanctionnés au niveau de l'Iran et surtout au niveau de Moscou, savez-vous que Washington et Moscou font plus maintenant de commerce et d'échanges que nous, les Français, et que l'Europe ? Est-ce que, de toute façon, il va lever ces sanctions extraterritoriales ? C'est ça, pour moi, la question principale. Est-ce qu'il va nous rendre notre souveraineté sur ce plan-là, sur le plan du commerce, des échanges industriels ? Parce que en ce qui concerne la Chine, notamment l'ennemi juré, et que je conçois parfaitement, parce que c'est ça le grand match qui ouvre. Et Biden, là-dessus, ne se montre pas différent de Trump, indéniablement. Est-ce que vous savez que la plupart des petites et moyennes entreprises françaises sont liées justement à ce commerce de manière très importante avec la Chine ? Est-ce qu'on va nous laisser faire en toute indépendance et l'Europe et la France ? C'est ça la vraie question.
La réponse, c'est probablement non, parce qu'il fera une politique qui, vis-à-vis de l'Europe, sera très proche de celle qui a été suivie.
Donc on n'aimera plus Biden dans 6 mois, c'est ça ?
Non, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement, c'est l'Amérique. L'Amérique a des priorités, comme toutes les grandes nations.
America is back. America
first.
America is back.
Elle est de retour.
Alors c'est vrai, c'est-à-dire le retour de l'hégémonie américaine.
Ça sera là. La phrase de conclusion, si vous le voulez bien, mon cher Charles Villeneuve, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment les grandes voix. Je remercie également Jean-Luc Herblade à la réalisation, Capucine Patouillet pour sa précieuse aide à la préparation de cette émission. Émission à retrouver bien sûr en podcast sur europe1.fr. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Sébastien Guyot à ce micro. Tout de suite, c'est la table des bons vivants avec l'ami Laurent Mariotte. Bonjour Laurent, c'est quoi le programme aujourd'hui ?
Bonjour Lionel et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Petite question, est-ce que vous aimez le fromage ?
Ah oui !
Avec
modération.
L'évêque de Normandie. On va aussi s'intéresser au juste prix pour que le consommateur et que le producteur soient contents. Ah. Et nous allons partager une blanquette de veau à la sauce de printemps avec Marina Carrère d'Encausse. À tout de suite.
J'écoute et je prends des notes. Merci Laurent Mariotte. Europe 1.